bonjour à tous.
Tout se ressemble, mais rien n'est pareil. Rien n'a changé, chaque chose a sa place. Même café, même tasse.
Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance, où toute cette semaine, nous tournons les pages de l'encyclopédie écrite par Gilbert Simondon. Après le mode d'existence des objets techniques hier, avant l'imagination comme puissance créatrice, et avant l'invention du futur par Gilbert Simondon lui-même, eh bien place aujourd'hui à ce terme au cœur de sa pensée, terme aussi ambitieux que terrifiant, l'individuation. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins s'individue comme tout être au jour le jour. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, David Pargamin, sans oublier bien sûr Adèle Vendrette, avec à la lecture des textes Jean-Louis Jacopin, à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui d'Alia. Il devient possible de rechercher un sens des valeurs autrement que dans l'intériorité limitée de l'être individuel replié sur lui-même, sans se condamner pour cela à anéantir l'individu devant la communauté. Entre la communauté et l'individu isolé sur lui-même, il y a la machine. Et cette machine est ouverte sur le monde. Elle va au-delà de la réalité communautaire pour instituer la relation avec la nature. Tels sont les mots de Gilbert Simondon dans sa thèse principale qu'il soutient en 1958 sous le titre « De l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information ». Longtemps amputé au fil des publications, longtemps éclipsé par sa thèse complémentaire sur le mode d'existence des objets techniques, l'une ne va pourtant pas sans l'autre. L'individuation ne va pourtant pas sans la technique. Car c'est bien avec la machine et comme la machine que l'individu sort de lui-même, qu'il élargit son horizon et embrasse toute la connaissance, autrement dit, qu'il s'individue. Mais que reste-t-il encore de l'individu s'il n'est question que d'individuation? Et qu'est-ce que d'ailleurs l'individuation? Ou encore la transduction, l'encyclopédisme génétique, le transindividuel, autant de termes sous la plume de Simondon. Rencontre aujourd'hui avec sa pensée de l'individuation, une pensée qui n'a peur ni des mots, ni de libérer l'individu et la connaissance. Et heureusement pour nous et pour vous, et pour éclaircir tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Hugues Barthélémy, directeur du Centre international des études simondoniennes, chercheur associé à l'Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense, éditeur et directeur des cahiers Simondon et auteur de plusieurs ouvrages sur Simondon. Bonjour et merci d'être ici.
Bonjour.
La différence entre l'étude classique de l'individuation et celle que nous présentons est celle-ci. L'individuation ne sera pas considérée uniquement dans la perspective de l'explication de l'individu individué. Elle sera saisie, ou tout au moins sera dite devoir être saisie, avant et pendant la genèse de l'individu séparé. L'individuation est un événement et une opération au sein d'une réalité plus riche que l'individu qui en résulte. D'ailleurs, la séparation amorcée par l'individuation au sein du système peut ne pas conduire à l'isolement de l'individu. L'individuation est alors structuration d'un système, sans séparation de l'individu et de son complémentaire. Cette méthode ne vise pas à faire évanouir la consistance de l'être individuel, mais seulement à la saisir dans le système d'être concret où sa genèse s'opère. Si l'individu n'est pas saisi dans cet ensemble systématique complet de l'être, il est traité selon deux voies divergentes, également abusives. Ou bien il devient un absolu, ou bien il est tellement rapporté à l'être dans sa totalité qu'il perd sa consistance et est traité comme une illusion. En fait, l'individu n'est pas une réalité complète. mais il n'a pas non plus pour complémentaire la nature tout entière, devant laquelle il deviendrait une réalité infime. L'individu a pour complément une réalité du même ordre que la sienne, comme l'être d'un couple par rapport à l'autre être avec lequel il forme le couple. Tout au moins, c'est par l'intermédiaire de ce milieu associé qu'il se rattache au plus grand que lui et au plus petit que lui.
Jean-Hugues Barthélémy, on vient d'entendre, interprété par notre comédien Jean-Louis Jacopin, un extrait de l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. C'est donc la thèse principale de Gilbert Simondon, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Elle a été partiellement publiée en 1964. Elle a eu peu d'écho comparé à sa thèse complémentaire du mode d'existence des objets techniques. Première question, assez simple finalement, comment Gilbert Simondon en est-il venu à travailler sur ce terme d'individuation ?
Alors, concernant les raisons qui l'ont mené à un tel travail, je pense que bon, il faut savoir d'abord qu'il a eu une formation philosophique qui a été marquée par certains grands penseurs français. Il s'inscrit dans une tradition française, et il y avait dans ces grands auteurs des penseurs comme Bergson, Bachelard notamment, et il en est venu donc à vouloir construire ce qu'on peut appeler une ontologie. Lui, il appelait ça une ontogenèse parce que c'est une ontologie génétique. Pourquoi est-ce qu'il en est venu à cela? C'est parce que on sait que Bergson avait déjà construit une pensée que l'on peut qualifier de cosmogénétique, hein, au sens où chez Bergson il y a la volonté de ne pas en rester à des positions traditionnelles comme vous savez le mécanisme, le vitalisme. Il a voulu penser une cosmogenèse ou une ontogenèse à sa manière déjà, mais Simondon lui reprochait de rester trop proche d'un certain vitalisme. Donc de ce fait, Simondon s'est inspiré de Bachelard, qui avait lui construit une épistémologie qui permettait de se protéger à certains égards de la tendance vitaliste, et donc aussi plus généralement de se protéger d'un certain substantialisme, afin de construire une pensée vraiment ontogénétique. Donc la notion d'individuation désigne pour lui d'abord cette genèse, comme genèse radicale. Une chose naît, vient au monde à partir de ce qui n'est pas elle. Elle n'est pas substance originaire, elle a une genèse radicale à partir de ce qui n'est pas elle. Et ça, c'est une position antisubstantialiste héritée de Bachelard, afin de réécrire, pour ainsi dire, la cosmogenèse encore trop vitaliste et à certains égards trop substantialiste de Bergson.
Donc, est-ce qu'on peut dire que Simondon, il n'est jamais vraiment question chez Simondon de cosmogenèse, mais véritablement oui. D'ontogenèse, c'est-à-dire oui. De dire comment l'être en vient à être ce qu'il est, oui. On pourrait dire ça. Il n'est pas vraiment question de décrire le monde, non, chez Simondon. Il est plutôt, à proprement parler, il est plutôt question d'ontogenèse.
Oui, mais si je parle de cosmogenèse, c'est parce que certains penseurs qui se sont inspirés de Simondon, comme par exemple Edgar Morin, qui dans le tome 2 de la méthode a cité à plusieurs reprises Simondon sur le vivant. Certains penseurs ont voulu justement penser l'ontologie comme une cosmogenèse, dans la mesure où le cosmos, si on le prend dans son acception la plus large, eh bien il désigne cette totalité qui, en tant que totalité, nous fait retrouver le fond des choses, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'être en tant qu'être. Et donc, ça nous fait retrouver immédiatement l'ontologie. Donc, la cosmogenèse, dans son ambition la plus profonde, la plus radicale, est ontologique. Et donc, ontogénétique, puisqu'elle est cosmogenèse. Voilà. Donc, il n'y a pas de séparation radicale, en fait, entre cosmogenèse et ontogenèse, si on donne à la cosmogenèse son sens le plus profond.
Et y a-t-il une séparation entre l'objet technique, donc ce qui est justement l'objet de sa thèse complémentaire dont on a parlé hier, et ce terme d'individuation? Quel lien se tisse entre ces deux termes?
Alors, entre les deux termes?
Entre objet technique et entre la technique d'un oui. côté et de l'autre l'individuation. Alors, qu'est-ce qui est complémentaire ça, dans ces deux thèses?
C'est tout l'enjeu de... Alors, c'est toute la question de l'unité de son travail, hein, entre les deux thèses principales et complémentaires. Ce qui fait le, il y a plusieurs façons de présenter les choses. Moi, je dis souvent que le lien fondamental entre ces deux thèses, c'est le fait que dans la thèse principale, il pense les différents régimes d'individuation. Or, à propos de l'individuation du vivant, il va dire qu'on a affaire non pas seulement à une individuation comme genèse radicale, mais on a affaire à une individuation perpétuée qu'il appelle l'individualisation. Or, cette notion d'individualisation se retrouve comme centrale dans la thèse complémentaire sur l'objet technique. Les objets techniques sont caractérisés par un processus de concrétisation, et cette concrétisation contient un processus d'individualisation lorsqu'on arrive au stade de la machine industrielle. C'est-à-dire que la concrétisation se joue à plusieurs niveaux. Elle se joue au niveau des éléments, hein, et ça peut concerner l'objet artisanal simple, mais elle se joue aussi ensuite au niveau de l'individu technique. Hein, c'est comme ça que Simondon s'exprime à propos de la machine industrielle, donc à propos de l'âge moderne. Et cette notion d'individualisation, finalement, est reprise à la thèse principale pour être appliquée à la machine en tant qu'individu technique qui possède son propre milieu associé, de même que l'individu vivant possédait son milieu associé. Et là, on a donc un geste qui est analogique et également asymptotique. L'objet technique, dit Simondon, n'est jamais absolument concret, contrairement à l'individu vivant qui est concret dès le départ, dit-il. Donc, on a une analogie et en même temps une asymptote. On peut penser le progrès technique, on peut le penser par analogie avec les lignées phylogénétiques du vivant. Mais cette analogie est en même temps une simple asymptote. Autrement dit, Simondon, contrairement à beaucoup de penseurs d'aujourd'hui, notamment les penseurs qui veulent revisiter la cybernétique en pensant la possibilité de robots qui seraient capables de penser, eh bien, contrairement à cela, Simondon nous dit que la machine, dans son progrès, la machine ne sera jamais pensante pour la simple raison qu'elle ne sera jamais vivante. On doit penser la machine par analogie avec le vivant, mais c'est une asymptote.
Donc en fait, l'individuation, et non pas l'individualisation, et on reviendra sur cette distinction, l'individuation permet à la fois d'unir la pensée de Simondon, mais aussi d'unir tous les êtres. C'est-à-dire que c'est une pensée de l'être.
Absolument, c'est là où justement on retrouve cette portée ontologique profonde.
Être qu'il soit à la fois physique, vivant ou
absolument,
humain.
Absolument, c'est une pensée qui, de ce fait... possède un caractère encyclopédique, hein. Ça couvre tous les régimes de genèse, donc tous les régimes d'individuation. Que ce soit le régime physique, le régime vital, qui lui-même devient psychosocial. Il n'y a pas de séparation à faire ici, hein, entre le régime vital et le régime psychosocial. Le psychosocial se construit à l'intérieur du vital.
Dans le texte qu'on a entendu, il est aussi question... Il est question justement d'individuation, on en a parlé, mais d'individuation plutôt que de l'explication de l'individu individué. Alors pourquoi finalement Simondon met-il l'accent sur l'individuation plutôt que sur l'individu individué ? Pourquoi mettre l'accent sur ce qui est le processus qui fait advenir l'individu plutôt que sur l'individu lui-même ?
C'est là où l'on retrouve son anti-substantialisme. Il s'inspire de l'épistémologie bachelardienne pour penser ce qu'il appelle le réalisme des relations. Et ça, c'est une position épistémologique qui va fonder une ontologie anti-substantialiste. Pourquoi est-ce qu'il fait cela ? Parce que il le dit dès la première page de la thèse principale, il y a eu deux grandes manières, selon lui, jusqu'à présent, il y a eu deux grandes manières de penser l'individu. Soit l'individu était inengendré, c'est ce qu'il appelle l'atomisme. Soit l'individu était la réunion d'une matière et d'une forme, et c'est ce qu'on appelle l'illémorphisme. Et il reproche à l'illémorphisme d'être encore un substantialisme déguisé. L'illémorphisme proposait, apparemment contre l'atomisme, d'expliquer la genèse de l'individu à partir de la réunion d'une matière et d'une forme. Mais cette genèse, pour Simondon, n'en est pas encore vraiment une. Parce que la matière et la forme sont déjà données. Elles sont déjà données, certes. Elles vont se réunir pour expliquer une certaine genèse de l'individu, mais si elles sont déjà données, elles sont elles-mêmes du même mode d'être que l'individu. Donc lui veut proposer une troisième façon de penser l'individu qui soit vraiment, cette fois-ci, une genèse radicale. C'est pour ça qu'il va invoquer une réalité dite pré-individuelle, qui est l'un des grands mystères de sa pensée.
nous voudrions montrer qu'il faut opérer un retournement dans la recherche du principe d'individuation, en considérant comme primordial l'opération d'individualisation à partir de laquelle l'individu vient à exister et dont il reflète le déroulement, le régime et enfin les modalités dans ses caractères. L'individu serait alors saisi comme une réalité relative, une certaine phase de l'être qui suppose avant elle une réalité pré-individuelle, et qui même après individuation n'existe pas toute seule, car l'individuation n'épuise pas d'un seul coup les potentiels de la réalité pré-individuelle, et d'autre part, ce que l'individuation fait apparaître n'est pas seulement l'individu, mais le couple individu-milieu.
Le vieux Geppetto prit tout de suite ses outils et se mit à tailler le morceau de bois pour fabriquer son pantin.
Quel nom vais-je lui donner ? Je vais l'appeler Pinocchio. Ce nom lui portera bonheur.
Maintenant, il se mit à travailler pour de bon.
Et illico, il lui fit les cheveux, puis le front.
Puis mes yeux.
Vilains yeux de bois, pourquoi me regardez-vous ?
Alors, après les yeux, il fit le nez.
Mais le nez était à peine achevé. Il s'allongea. Il s'allongea pour devenir en quelques minutes un nez qui n'en finissait plus.
À peine eut-il terminé les mains que Geppetto sentit sa perruque s'arracher de sa tête.
Pinocchio, rends-moi immédiatement ma perruque.
Mais le pantin, au lieu de la lui rendre, se la mit sur la tête et se retrouva dessous, à moitié étouffé.
Fils de rien, je n'ai pas encore fini de te concevoir et tu commences déjà à manquer de respect à ton père.
Jean-Hugues Barthélémy, on vient d'entendre un extrait issu d'une fiction de 2007 diffusée sur France Culture. Donc on entend la création du pantin Pinocchio par le menuisier Geppetto et celle-ci semble être l'illustration de ce que Gilbert Simondon nomme l'individuation. Par exemple, dans le texte que j'ai lu, il précise ce qu'est cette individuation, d'abord en disant que c'est une actualisation d'une réalité pré-individuel, et ensuite que cette actualisation se fait dans un milieu. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut préciser ce qu'est l'individuation ?
Oui, alors il y a une ambiguïté quand même sur la notion de milieu ici. Par exemple, si on prend son paradigme, ce qu'il appelle l'image la plus simple de la transduction, c'est-à-dire pour lui du processus d'individuation ou de genèse.
Alors tout de suite, est-ce que vous pourriez définir transduction ?
La transduction, c'est cette opération. Il définit la transduction comme la propagation d'une structuration. Et l'image la plus simple de cela, c'est la cristallisation. Lorsqu'on plonge un germe cristallin dans une solution aqueuse dite en surfusion, en état de surfusion, elle est sursaturée, grâce à cet état qu'il appelle, lui, une métastabilité, la solution va cristalliser dès que l'on aura introduit le germe cristallin. Et c'est la propagation de cette structuration, c'est la transduction. C'est donc l'opération fondamentale qui permet de penser l'individuation. Mais encore une fois, la cristallisation, c'est l'image la plus simple, hein, parce que la transduction va ensuite se complexifier selon les différents régimes d'individuation.
La transduction est finalement une opération mentale qui permet de comprendre ce qui est à l'œuvre dans l'individuation ?
Elle est à la fois l'opération mentale et l'opération qui se passe dans la réalité, en train de naître.
Donc là, par exemple, Pinocchio, on a l'exemple d'une transduction.
Là, sur Pinocchio, c'est différent parce que il faut parler ici d'un processus d'individualisation, de l'objet artificiel. Hein. Là, on est sur un objet artificiel. Donc,
c'est toute l'ambiguïté de Pinocchio, c'est-à-dire qu'il s'anime en fait au fur et à mesure qu'il est fabriqué.
Oui, et quand je parlais de l'ambiguïté de la notion de milieu, c'est que si vous prenez par exemple l'image du cristal, vous plongez le germe cristallin, la solution aqueuse, en un sens, pourrait être appelée un milieu par rapport au germe cristallin que l'on y plonge. Hein. Mais en même temps, si vous pensez la relation entre l'individu qui est à naître et son milieu associé, la solution aqueuse ne sera pas à ce moment-là milieu. Elle sera origine de tout cela. Donc, il vaut mieux parler plutôt que de milieu pour parler de cette origine, qu'est la solution aqueuse, il vaut mieux parler d'un champ. Un champ métastable, qui est à l'origine de l'individu. Et ensuite, Simondon, lorsqu'il pense le vivant, il va vous expliquer que l'être vivant, mais aussi son milieu associé, sont tous les deux le résultat du processus d'individuation. Il ne faut donc pas réduire l'individu à un milieu qui se serait mis en lui.
En fait, le milieu n'est pas forcément l'environnement dans lequel naît ou apparaît, on va dire, le processus d'individuation, un individu en devenir. C'est véritablement quelque chose qui apparaît en même temps
absolument
que l'individu. Mais
absolument,
par exemple, je reprends l'exemple de Pinocchio parce que pour essayer de rendre cela un peu clair, c'est-à-dire que l'environnement, à savoir l'atelier de menuiserie de Geppetto, n'est pas le milieu associé de l'individu Pinocchio, c'est l'environnement dans lequel le champ dans lequel il apparaît. En revanche, quel va être alors le milieu associé à l'individu Pinocchio ?
Le milieu associé, ce sera un milieu techno-naturel, un techno-géographique, dit Simondon. Donc c'est le milieu qui va intervenir dans son propre fonctionnement. Donc il faudrait, à mon avis, si vous voulez, l'exemple de Pinocchio n'est peut-être pas le meilleur, parce que Pinocchio, si vous voulez, c'est un peu la figure de l'automate. Et Simondon, lui, préfère penser, plutôt que les automates, il préfère penser ce qu'il appelle les machines ouvertes. Les machines ouvertes, vous avez parlé hier de la turbine Guimbal. Là, on a un exemple qui pour Simondon, est vraiment central. C'est la machine ouverte, elle intègre dans son fonctionnement son milieu associé qui est techno-géographique. Donc, il faut distinguer l'automate que Simondon, lui, attribue... Enfin, il considère que c'est un peu le paradigme de la cybernétique, et il était en dialogue avec la cybernétique, pour penser davantage, lui, la machine ouverte. La machine ouverte sur son milieu.
Pour le coup, Pinocchio n'est pas tant un automate, il se rapproche même plus de l'être humain. C'est-à-dire il est plutôt doué d'un principe d'animation, d'une âme. Donc, c'est pas vraiment l'automate, mais en revanche, se pose le problème de ce qui va différencier de ce que va être le couple milieu-individu dès lors qu'il ne s'agit plus d'une machine comme la turbine Guimbal, mais qu'il s'agit d'un être humain.
Oui, alors concernant l'être humain, le milieu n'en est même plus un, parce que l'être humain est un être psychosocial qui intègre complètement dans sa dimension psychique le soi-disant milieu que serait le social. Donc le social n'est même plus un milieu. Il est complètement intégré à la... Il y a ici un grand paradoxe, mais ce n'est qu'un paradoxe, c'est absolument pas une contradiction. Le paradoxe est essentiel à la profondeur philosophique en général et donc à la pensée de Simondon. Nous ne pouvons nous individualiser, de manière psychique donc, que grâce justement à ce social. Donc il n'y a absolument pas d'opposition entre le processus d'individualisation psychique et le processus de construction d'une société. Il n'y a absolument pas d'opposition, les deux ne font qu'un. Et ça, c'est le réalisme des relations qui permet de le comprendre. C'est parce que la relation se démultiplie que l'individu s'individualise. Il n'y a absolument pas d'opposition entre caractère relationnel et caractère individualisé. Mais concernant Simondon, Pinocchio, je parlais d'automate. Il est vrai que Pinocchio, quand je parle d'automate, c'est parce que je pars de ce qui est l'origine crédible de Pinocchio. Pinocchio en tant que tel n'est plus crédible. C'est un être mythologique. C'est-à-dire que c'est un artefact qui serait devenu vivant et complètement autonome. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler le robot dont rêvent certains qui serait devenu vivant. Et c'est ce à quoi Simondon ne peut pas croire.
Un vieux bonhomme fit une marionnette et la surnomma Pinocchio. Il fit le vœu que cette marionnette devienne vivante subito. Et voilà qu'il le fait de sa baguette, transforma presque Pinocchio. Et bien qu'il fût toujours en bois, Pinocchio se mit à parler. Et bien qu'il fût toujours en bois, il se mit à marcher. Dans la maison, c'est une joie formidable, tout le monde fait danser Pinocchio. Et Jiminy, le cri est raisonnable, sera l'enjardin de Pinocchio. Le lendemain, il emmène à l'école, mais voilà que Pinocchio suit de voyous à l'air mariole qui lui promet un grand destin et qui le vend pour trois fois rien à un vieux bohémien. Grâce à
Grâce à la fée, il s'enfuit, mais pas de chance. Il est vendu par nos voyous au postillon d'une drôle de diligence qui vient sur lui, promène Pérou. Pleine d'enfants, voilà la diligence qui part vers l'île du plaisir, où l'on peut faire, où l'on peut dire n'importe quoi, et même le pire, où l'on devient d'affreux jojo. Malheur à Pinocchio.
Vous écoutez France Culture, Henri Salvador, Pinocchio, et il est 10h25 et vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. C'est notre semaine spéciale Gilbert Simondon avec aujourd'hui, pour évoquer l'individuation, Jean-Hugues Barthélémy, directeur du Centre international des études simondoniennes, chercheur associé à l'Université de Paris-Ouest Nanterre, éditeur et directeur des cahiers Simondon disponibles chez l'Harmattan, et puis auteur de plusieurs ouvrages sur Simondon, dont une monographie disponible aux Belles Lettres, et puis aussi Simondon ou l'encyclopédisme général qu'on trouve au puf.
Comment le psychique et le vital se distinguent-ils l'un de l'autre? Selon la théorie de l'individuation, le psychique et le vital ne se distinguent pas comme deux substances, ni même comme deux fonctions parallèles ou superposées. Le psychique intervient comme un ralentissement de l'individuation du vivant. Si l'être vivant pouvait être entièrement apaisé et satisfait en lui-même, dans ce qu'il est en tant qu'individu individué, à l'intérieur de ses limites somatiques et par la relation au milieu, il n'y aurait pas d'appel au psychisme. L'entrée dans l'existence psychique se manifeste essentiellement comme l'apparition d'une problématique nouvelle, plus haute, plus difficile, qui ne peut recevoir aucune véritable solution à l'intérieur de l'être vivant proprement dit, conçu à l'intérieur de ses limites comme être individué. La vie psychique n'est donc ni une sollicitation ni un réarrangement supérieur des fonctions vitales, mais une nouvelle plongée dans la réalité pré-individuelle suivie d'une individuation plus primitive. Il résulte d'une pareille hypothèse que l'entrée dans la voie de l'individuation psychique oblige l'être individué à se dépasser. La problématique psychique faisant appel à de la réalité pré-individuelle aboutit à des fonctions et à des structures qui ne s'achèvent pas à l'intérieur des limites de l'être individué vivant. Si l'on nomme individuel l'organisme vivant, le psychique aboutit à un ordre de réalité trans-individuelle.
Chacun de nous est un corps, soumis aux mêmes lois que toutes les autres portions de matière. Si on le pousse, il avance. Si on le tire, il recule. Si on le soulève et qu'on l'abandonne, il retombe. Mais à côté de ces mouvements qui sont provoqués mécaniquement par une cause extérieure, il en est d'autres qui semblent venir du dedans et qui tranchent sur les précédents par leur caractère imprévu. On les appelle volontaires. Quelle en est la cause? C'est ce que chacun de nous désigne par les mots « je » ou « moi ». Et qu'est-ce que le « moi » ? Quelque chose qui paraît, à tort ou à raison, déborder de toutes parts le corps qui y est joint, le dépasser dans l'espace aussi bien que dans le temps. Dans l'espace d'abord, car le corps de chacun de nous s'arrête au contour précis qui le limite, tandis que par notre faculté de percevoir, et plus particulièrement de voir, nous rayonnons bien au-delà de notre corps, nous allons jusqu'aux étoiles. Jean-Hugues Barthélémy, dans le texte qu'on a entendu interprété par Jean-Louis Jacopin, toujours issu de la thèse de Gilbert Simondon, l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, Simondon distingue le vital du psychique, ce psychique qui oblige l'être individué à se dépasser, dit-il. Après, avec l'introduction du psychique, est-ce qu'on peut dire que Simondon en vient à personnifier l'individuation, comme dans le texte que j'ai lu de Bergson, qui est extrait de l'énergie spirituelle, qui dégage l'idée d'un moi qui déborde de toutes parts le corps et va jusqu'aux étoiles?
Oui, il y a effectivement un rapport entre cette description faite par Bergson et puis la manière dont Simondon veut penser les choses. Il y a un héritage bergsonien chez Simondon sur plusieurs points importants. Simplement, ce qui est vraiment fondamental à mon avis pour nuancer ce rapport, c'est ce que Simondon lui-même disait dans le texte que vous avez lu, c'est que Simondon dit que pour passer du simple vital à un vital qui serait doté d'un psychisme, ce qu'il appelle d'ailleurs individualisation, hein, construction d'un psychisme en soi, hein, par dédoublement psychosomatique. Hein. Il dit que l'individualisation, c'est un dédoublement psychosomatique. Eh bien, pour qu'il y ait ce processus de dédoublement psychosomatique, il faut faire appel, c'est ce qu'il disait là dans ce texte, il faut faire appel à la charge pré-individuelle. L'être vivant, c'est un être qui entretient sa propre métastabilité et qui va pouvoir construire en lui un psychisme parce que justement la pré-individualité qui est en lui va lui servir à, c'était très bien décrit par Simondon dans ce texte, va lui permettre un processus que l'on appelle un processus néothénique. C'est un processus néothénique, ça consiste, il parlait de ralentissement. Le psychique, hein, est un ralentissement du vital. Ça veut dire que l'individuation vitale, lorsqu'on ralentit sa première phase et qu'on approfondit cette première phase, on obtient le développement d'un psychisme. À l'intérieur même de l'organisme vivant se développe un psychisme par un processus néothénique. Et c'est là où il y a une différence sans doute avec Bergson. C'est que intervient ici la pré-individualité portée par l'organisme vivant. Cette réalité pré-individuelle qui est le fondement antisubstantialiste de la pensée de Simondon.
Mais comment peut-il être anti-substantialiste en soutenant qu'il y a une réalité pré-individuelle ? C'est-à-dire que finalement tout ne se fait pas dans l'individuation puisqu'il y a une réalité pré-individuelle, il y a quelque chose qui préexiste. Et qu'est-ce qui préexiste ? Et puis autre chose, ce dédoublement psychosomatique est une manière entre le corps et le psychisme, n'est-ce pas une manière de réintroduire une forme de dualisme, à savoir ce qu'il reprochait aux tenants de la conception de l'illémorphisme, à savoir comme Aristote avec la rencontre de l'âme et du corps. Finalement, comment Simondon échappe-t-il à toutes ces objections précisément alors qu'il voulait les dépasser ?
Justement parce que là, on est dans un processus de genèse. S'il y a antisubstantialisme, c'est parce que l'on part d'une réalité qui n'est pas encore individuée, qui est donc ce fameux pré-individuel. Ce fameux pré-individuel, Simondon dit que la physique quantique permet de s'en faire une idée. C'est une réalité qui est un pur potentiel. Il appelle ça un potentiel réel. C'est-à-dire que c'est pas juste du possible. C'est une réalité, mais sous la forme d'un potentiel qui ne s'est pas encore individué en unité. Et cette réalité, donc, dont la physique quantique peut nous donner une idée, parce que la physique quantique pense des particules qui ne sont pas des choses strictement individuées, Bachelard nous l'avait déjà enseigné, cette réalité pré-individuelle va donc permettre une genèse. Plutôt que d'avoir la réunion d'une matière et d'une forme, on a une réalité qui va se déphaser. On part d'une seule réalité dite pré-individuelle qui se déphase parce qu'elle est du plus qu'un. On n'est pas dans du non-un dialectique comme chez Hegel, on est dans du plus qu'un qui se déphase. Et donc la construction d'un soma, d'un corps et d'une psyché à l'intérieur de l'organisme par dédoublement psychosomatique, c'est un processus de genèse et non pas de réunion d'une matière et d'une forme.
Il faut bien différencier, j'ai l'impression, plusieurs stades, c'est-à-dire le moment en fait où cette réalité pré-individuelle va commencer à s'individuer. Et alors là, il faudrait se poser la question de pourquoi, comment et à quel moment, qu'est-ce qui fait surgir ça ? Ou alors peut-être que cette question, la réponse, peut-être que Simondon ne répond pas à cette question. Et puis aussi, il faut différencier, à savoir ce que Simondon nie dans le texte qu'on a entendu, la distinction entre le vital et le psychisme, qui ne recoupe pas en fait la distinction entre d'un côté l'individuation et de l'autre l'individualisation, si j'ai bien compris. Alors juste peut-être pour répondre à la première question sur comment cette cette réalité pré-individuelle devient individualisation ou individuation?
Alors, elle devient, elle s'individue parce que il arrive une rencontre. L'image du germe cristallin que l'on plonge dans la solution aqueuse est très parlante. C'est pour ça qu'il choisit ce paradigme de la cristallisation. Il se produit une singularité. Nous avons un champ métastable. Il est sursaturé. Il est plus qu'un. Il n'attend plus que la rencontre d'une singularité qui va provoquer son individuation. Donc c'est la rencontre hasardeuse. C'est la rencontre hasardeuse qui va provoquer cette individuation, cette singularité qui intervient là et qui fait que la solution va cristalliser. Donc, l'individu vivant, par contre, lui, il entretient sa propre, c'est la différence avec l'inerte, il entretient sa propre métastabilité. Hein, et il est en relation permanente avec son milieu associé. Et cet individu vivant, alors vous parliez de l'individualisation, l'individu vivant est à la fois fondé sur ce que Simondon appelle l'individuation comme origine absolue, et en même temps, il est un processus d'individualisation par dédoublement psychosomatique notamment. On peut dire que tout individu vivant s'individualise, mais cette individualisation se révèle pleinement dans le dédoublement psychosomatique qui va donner naissance à l'intérieur du vivant à la réalité psychique. Et ensuite, cette réalité psychique, le texte qui a été lu le disait bien, cette réalité psychique va elle-même donner le psychosocial, qui va se construire comme solution à ce qu'il appelle la problématique psychique, qui trouve sa solution dans le psychosocial.
Dans le psychosocial, et plutôt le terme qu'il emploie tout à la fin de ce texte qu'on a entendu, c'est le psychique aboutit à un ordre de réalité transindividuel. C'est encore un troisième stade, on va dire qu'il y a eu le vital, le psychique, et puis il y a maintenant le transindividuel. Est-ce que ce serait une bonne manière de se représenter l'individuation?
Oui, alors, je préférerais dire, je préférerais dire qu'il y a trois grands régimes d'individuation, le physique, le vital et le psychosocial, mais en précisant que le psychique, lui, est la voie, ce que Simondon appelle la voie transitoire entre le vital et le psychosocial. Il n'est qu'une voie transitoire. Simondon dit que le psychique n'est pas, à proprement parler, un régime d'individuation. Il est une voie transitoire entre deux régimes d'individuation, le vital et le psychosocial. Et grâce à cette voie transitoire, on ne peut pas séparer le psychosocial du vital. Il est du vital transformé.
Et qu'en est-il des objets techniques? Vous avez parlé tout à l'heure, donc il y a d'un côté, donc il y a vital, il y a physique, pardon, vital et psychosocial ou transindividuel.
Transindividuel, c'est pareil.
Du coup, où est l'objet technique? Parce que ça n'est pas un objet inerte chez Simondon. Est-ce qu'il il subit la même individuation qu'un être vivant finalement, qu'un processus vital? Vous avez parlé tout à l'heure même d'individualisation à l'égard de l'objet technique. Est-ce qu'on pourrait dire à la fois que l'objet technique a un processus vital, mais aussi parvient-il à une forme de psychisme avec Simondon?
Ah non, non, non. Justement, c'est toute la différence entre certains rêves actuels, hein, d'obtenir des machines pensantes, et ce que Simondon lui proposait. C'est-à-dire que l'objet technique fait partie de la culture en tant qu'elle se développe comme phénomène psychosocial. Et le paradoxe, c'est d'ailleurs que la notion de transindividuel, et donc de psychosocial par là même, cette notion de transindividuel n'intervient qu'à la fin de la thèse complémentaire sur l'objet technique. Elle n'intervient qu'à la fin. Et ce que Simondon dit, qui me semble très important, c'est que l'objet technique est le support et le symbole d'une relation humaine qui serait le modèle de la transindividualité. C'est là où Simondon fait de l'objet technique et de son progrès vers un âge qui est celui des ensembles informationnels, eh bien, il fait de l'objet technique et de ce progrès quelque chose qui possède sa propre normativité, d'une part, normativité technique, ça a été dit hier dans l'émission, mais qui possède également une normativité pour le progrès social lui-même. Donc l'objet technique, si vous voulez, ça d'autres que Simondon l'ont dit avant lui, l'objet technique nous prolonge. Il nous prolonge, et par ailleurs, il est le support ou le symbole, dit Simondon, d'une relation transindividuelle qui dépasse, par exemple, la simple relation de travail au sens le plus réducteur du terme et le plus négatif du terme. Hein. Le travail, c'est la mise en relation d'un individu avec un autre individu ou avec la nature. Hein, il y a les deux aspects, et l'individu est donné dans le travail, alors que Simondon pense le transindividuel comme une relation qui fait que la charge préindividuelle en nous va continuer de s'individuer. On dépasse la pauvre relation de travail. Hein. Il a une vision négative du travail.
Finalement, l'objet technique est comme une prothèse à l'individuation qui serait plutôt réservée aux humains ou aux êtres vivants, du moins.
Ce qui serait réservé, vous dites, ce qui serait
que,
réservé.
Que l'objet technique, finalement, serait une sorte de prothèse à l'individuation qui serait réservée aux humains ou aux êtres vivants.
Absolument. Absolument. C'est-à-dire que c'est le sujet, c'est ce qu'il appelle le sujet. Alors le sujet, il faut préciser ici cette notion parce que l'être technique exprime la charge de réalité pré-individuelle portée par le sujet qu'il a inventé. Donc le sujet, c'est fondamentalement pour Simondon l'ensemble formé par l'individu et sa charge de réalité pré-individuelle. La définition centrale du sujet, c'est cela. Ce sujet, il possède plusieurs aspects. Il va jusqu'au transindividuel, mais on n'est pas obligé. C'est ça qui, pour moi, est très important chez Simondon. Je veux dire, si on veut philosopher aujourd'hui sur l'animal, par exemple. Ce qui est très important chez Simondon, c'est qu'on n'est pas obligé d'accéder au transindividuel pour être déjà un sujet. Mais par ailleurs, le sujet ne se réalise complètement que par l'accès au transindividuel. Mais l'important, c'est qu'il y a déjà un sujet en tant que réalité psychique animale. Et l'homme qui invente un objet, qui invente un objet technique, c'est un sujet qui construit la transindividualité en s'extériorisant dans cet objet qui va recueillir la pré-individualité portée par le sujet.
Finalement, ainsi, Simondon parvient à sauver son but de départ, c'est-à-dire que l'enjeu de départ de sa thèse, à savoir substituer à l'individu l'individuation, parce que finalement, de l'individu, il ne reste pas grand-chose, c'est-à-dire il ne reste que des échanges, que des relations, que du transindividuel, c'est-à-dire que du partage, non pas avec d'autres individus, mais avec d'autres éléments, avec un milieu.
Oui, mais je ne dirais pas qu'il ne reste pas grand-chose, parce que justement, comme je le disais précédemment, nous avons affaire à un paradoxe, c'est-à-dire autre chose qu'une contradiction. C'est-à-dire, un paradoxe en philosophie, c'est vraiment le sel de l'esprit. Hein. Un philosophe qui ne construit pas de paradoxe, il philosophe pas. Hein. Un philosophe qui se contredit n'est pas philosophe. Un philosophe qui construit pas de paradoxe ne philosophe pas.
Simondon fait des paradoxes, donc il est philosophe.
À partir du moment où il arrive à construire une pensée qui est fondée sur des paradoxes qui, en tant que tels, ont leur solution, alors oui, il est un penseur, un vrai penseur. Et ce que j'ai essayé d'expliquer dans mes travaux, ce sont certains paradoxes, comme celui-là dont je parlais et qu'il faut faire intervenir à nouveau ici, c'est que si on se fonde sur le réalisme des relations, ce qu'il appelle le réalisme des relations, alors on peut dire que plus la relation se démultiplie et plus l'individu va s'individualiser et non pas se perdre dans les relations qui le constituent. Donc on désubstantialise l'individu, mais on ne le déréalise pas.
Il y a une évolution de l'objet technique qui fait que les réalités culturelles doivent être aussi contemporaines que possible de la véritable nature de l'objet. Si elles représentent ce qu'était l'objet il y a 20 ans, elles conduisent à une consommation ostentatoire ou à une attitude erronée, finalement à une déception. Alors on charge l'objet technique, on en fait le diable au fond, on le charge de tout ce qui va mal dans la société, alors que ce qui va mal, ça n'est pas que l'objet technique soit le mal et fasse aller tout le reste de travers, c'est simplement que entre l'homme et la chose, il y a un hiatus, une incompréhension, une espèce de guerre. Voilà, je crois, ce qu'il faudrait remettre en place, une saine connaissance du fait qu'il ne s'agit pas de dire seulement objet technique globalement. Objet technique, c'est soit un objet technique commençant, soit un objet technique à l'étape dichotomique, comme la force de T, où il essaie de s'adapter à tout, soit enfin un objet de réseau. Et ce n'est pas avec les mêmes attitudes, ce n'est pas en demandant la même utilisation que l'on doit aborder chacune de ces trois étapes. Replacer historiquement l'objet technique, apprendre aux utilisateurs et aussi aux producteurs, qui quelquefois le méritent, qu'il faut être complètement dans le présent historique, ce serait la tâche culturelle la plus importante à laquelle je voudrais arriver.
Nous ne pouvons, au sens habituel du terme, connaître l'individuation. Nous pouvons seulement individuer, nous individuer et individuer en nous. Cette saisie est donc, en marge de la connaissance proprement dite, une analogie entre deux opérations, ce qui est un certain mode de communication. L'individuation du réel extérieur au sujet est saisie par le sujet grâce à l'individuation analogique de la connaissance dans le sujet. Mais c'est par l'individuation de la connaissance et non par la connaissance seule que l'individuation des êtres non-sujets est saisie. Les êtres peuvent être connus par la connaissance du sujet, mais l'individuation des êtres ne peut être saisie que par l'individuation de la connaissance du sujet. Jean-Hugues Barthélémy, je viens de lire un extrait assez compliqué, toujours extrait de la thèse de Simondon, l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. On comprend que l'individuation dont nous parlons depuis tout à l'heure ne concerne pas seulement que les êtres, mais aussi la connaissance. Et est-ce que cette individuation de la connaissance correspond à ce qu'on a entendu dans l'archive de 1968, dans laquelle Simondon évoque ce hiatus entre l'homme et la chose qui doit être comblée par une saine connaissance?
Ce sont deux aspects différents de cette même pensée, en fait. Le texte que vous venez de lire, le passage que vous venez de lire, lui, il nous livre le fondement le plus... Enfin, je dirais la visée la plus philosophique, la plus profonde, la plus ambitieuse de Simondon. Comme vous le savez sans doute, le XXe siècle a été traversé par de grandes pensées qui toutes ont voulu caractériser la philosophie comme devant dépasser l'opposition ou le face-à-face entre le sujet et l'objet. Et on retrouve ce genre de gestes théoriques dans de très grandes pensées comme celle de Heidegger, et déjà Husserl, à certains égards, avec son idée d'intentionnalité, voulait déjà dépasser une certaine opposition du sujet et de l'objet. Heidegger lui a reproché de ne pas le faire vraiment. Quasiment toutes les grandes pensées, les très grandes pensées du XXe siècle sont caractérisées par cette ambition.
Comme celle de Merleau-Ponty aussi, d'ailleurs, qui a assisté à la thèse de Gilbert Simondon.
Bien sûr. Et Simondon propose, là, dans ce passage, il propose un nouveau mode de dépassement de l'opposition sujet-objet, de ce face-à-face. Car la connaissance de l'individuation est elle-même individuation de la connaissance. Autrement dit, mon objet, c'est l'individuation, et cet objet, eh bien, il me fait.
Il participe déjà de ma propre individuation, c'est
oui,
ça?
Oui, absolument. C'est un objet qui n'est plus face à moi, c'est un objet qui est l'individuation elle-même. Donc, c'est un objet qui me fait, en tant que j'individue, ma pensée sur cet objet.
C'est toute l'entreprise de Gilbert Simondon. Vous avez évoqué tout à l'heure le terme, je l'ai dit aussi en introduction, c'est le terme d'encyclopédisme de Gilbert Simondon. Est-ce que c'est ça aussi l'individuation de la pensée, à savoir unifier par un terme, par un processus qui serait celui de l'individuation, et en même temps du coup s'individuer soi-même?
Oui, nous avons là la rencontre, hein, on a là... Si j'ai appelé encyclopédisme génétique la pensée de Simondon...
C'est un terme qu'on vous doit.
Oui, c'est une expression que j'ai forgée pour dire ce qui, pour moi, caractérise son ambition. Et elle réunit deux aspects. D'une part, prolonger donc les ambitions du XXe siècle en philosophie, hein, pour trouver une nouvelle modalité de dépassement de l'opposition sujet-objet, et le faire à travers, justement, un nouvel encyclopédisme qui ne se ramène plus à l'encyclopédisme et à l'humanisme des Lumières. Proposer un nouvel encyclopédisme génétique et un nouvel humanisme que j'ai qualifié de difficile, puisque Simondon s'opposait à ce qu'il appelait le facile humanisme, qui, entre autres, était celui des Lumières encore.
Dépasser l'opposition entre objet pensé et sujet pensant, c'est aussi ce qu'il fait quand il évoque l'idée de milieu. Vous reprenez aussi cette expression-là, c'est-à-dire Simondon est un penseur du milieu, en milieu, au milieu.
Absolument, l'expression penser au milieu peut être prise en deux sens, et ces deux sens, j'ai transformé ces deux sens en ce que j'ai appelé les deux grands principes, ce qu'on pourrait appeler les deux grands principes de la pensée de Simondon. Penser au milieu, c'est d'abord penser à ce milieu associé, hein, et non pas seulement à l'individu. Hein, il faut penser la genèse de l'individu comme étant aussi genèse de son milieu associé, et ainsi on obtient une pensée génétique radicale et subtile, hein, puisque l'individu n'est pas ramené à la simple individuation de son milieu en lui, puisque le milieu est lui-même résultat du processus d'individuation. Et d'autre part, penser au milieu, ça veut dire également penser à partir du centre des choses, hein, avoir une pensée du déphasage, de la transduction comme déphasage.
Mais est-ce que la connaissance est véritablement possible avec Gilbert Simondon? Il y a quelques doutes qui planent avec le texte que j'ai lu, c'est-à-dire que finalement si la pensée s'individue elle-même, si la connaissance de l'individuation doit elle-même être individuation de la connaissance, y a-t-il une fin, la possibilité d'avoir accès objectivement à une connaissance si celle-ci est tout le temps en train de d'être continuée, d'évoluer?
Effectivement, c'est là où on pourrait faire un parallèle avec Bergson, hein, parce que effectivement, la philosophie n'a pas à être d'abord, elle n'a pas à être une science, hein, elle n'a pas à être une science. Elle est, dit Simondon, un mode analogique de connaissance. Hein. C'est-à-dire que en science, comme vous le savez sans doute, l'analogie n'intervient que de manière heuristique, hein, c'est-à-dire au tout départ. Hein, j'ai une intuition, je construis une analogie, hein, intuitive, et ensuite s'instaure le processus de connaissance scientifique qui, lui, ne fait plus intervenir la pensée analogique. Donc l'analogie a un rôle seulement heuristique en science. Alors qu'en philosophie, dit Simondon, elle doit avoir un rôle non pas seulement heuristique, mais constitutif.
I am what I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Beaucoup Jean-Hugues Barthélémy d'être venu nous parler de l'individuation chez et selon Simondon. Je rappelle qu'on peut découvrir Simondon donc grâce à vous dans une monographie très pédagogique disponible aux Belles Lettres et qui va apparaître en anglais chez Bloomsbury cette année. Et puis on peut également lire de vous Simondon ou l'encyclopédisme génétique, c'est au PUF. Et puis Penser l'individuation, Simondon et la philosophie de la nature, c'est disponible chez l'Harmattan. Et puis enfin j'en profite aussi pour rappeler que la thèse de Simondon, l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, c'est-à-dire la thèse principale de Simondon, est disponible aux excellentes éditions Jérôme Mignon. On y trouve le texte unifié, complet et même des compléments avec des inédits. Et puis aussi, Jean-Hugues Barthélémy, je rappelle que vous éditez et dirigez les cahiers Simondon et qu'on peut les trouver chez l'Harmattan. Et bien, quant à nous, je vous donne rendez-vous demain pour continuer l'individuation de notre connaissance du philosophe de la technique. Et demain, ce sera Jean-Yves Château qui évoquera la puissance d'invention et de création de l'imagination selon Simondon. Et puis quant à vous, pour écouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page du Nouveau Chemin. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, et puis y trouver toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.